Le retour de l'avocat Radio Côte d'Armoise, maître Enzo Baudard, comtesse, avocat rattaché au barreau de Draguignan. Enzo, bonjour.
Bonjour François, merci de m'accueillir. Comment et bonjour, bonjour aux auditeurs. Ça va très bien, bon. Je te remercie. Toujours très heureux de venir sur Radio Côte d'Armoise.
Plaisir partagé. On va aborder un nouveau sujet cette semaine, les risques dans des lits de fuite. On avait déjà survolé un peu cette question quand on avait parlé du refus d'obtempérer.
Tout à fait, on en avait parlé, effectivement.
Ça reste deux choses différentes.
Hein. Oui, ça reste deux infractions différentes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, au-delà de ce qu'on risque déjà, qu'est-ce qu'un délit de fuite ? Donc on imagine la situation un peu classique, un choc léger, un accrochage sur un parking et un réflexe, partir face à une telle situation. C'est ce qu'on appelle le délit de fuite. Alors juridiquement, qu'est-ce que c'est ? C'est défini dans le code pénal. C'est le fait pour un conducteur, sachant qu'il vient de causer un accident, de ne pas s'arrêter pour tenter d'échapper à sa responsabilité. Mmh. Alors c'est pas forcément qu'un accident, c'est le fait d'avoir... déjà commencé une infraction et au lieu de se rendre, d'être dans une situation de fuir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce délit ne sanctionne pas l'accident en lui-même, il sanctionne le fait de fuir pour éviter d'assumer ses responsabilités. Mmh. Et les peines sont lourdes, elles viennent s'aggraver à une situation déjà présente, jusqu'à 3 ans de prison,
d'accord.
75 000 euros d'amende, okay. Suspension ou annulation du permis de conduire, confiscation du véhicule, retrait de points, et surtout la jurisprudence, c'est donc les décisions de justice, c'est donc les juges, et elles ne font pas office de loi, mais elles sont un guide pour tout justiciable. Alors, dans un arrêt de 83, qui est un arrêt de principe, il suffit que l'auteur ait tenté d'échapper à sa responsabilité pour qu'il soit considéré comme étant en situation de délit de fuite.
D'accord.
La tentative suffit, quand bien même elle n'est pas, la fuite n'est pas réussie.
Ok.
Autre point important, vous pouvez être condamné même si vous êtes arrêté quelques secondes. Mmh. Par exemple, un conducteur s'arrête, discute, puis repart sans donner ses coordonnées. C'est-à-dire qu'il a commencé à être dans la situation de... entre guillemets, d'obtempérer. Mmh. On n'est pas dans le refus d'obtempérer. Là. Ouais. Je dis bien d'être dans la situation d'avoir accepté et puis se rendant compte qu'il se trouve face à un risque qui potentiellement peut lui causer du tort, se met à fuir. Parce que l'obligation légale, ce n'est pas juste de s'arrêter, c'est de permettre l'identification et la détermination des responsabilités. Ça va encore plus loin. Par exemple, même sur un parking privé ou une résidence, le délit de fuite peut être tout à fait caractérisé. Ce n'est pas uniquement une infraction qui aurait eu lieu sur la route. Même si la victime relève votre plaque, vous pouvez être condamné. C'est vraiment l'intention en elle-même qui va être déterminante dans la caractérisation de la question du délit de fuite. Même en cas de panique, les juges retiennent souvent l'infraction. Il y a des situations où vous pourriez être effectivement dans le cas d'avoir paniqué, c'est d'ailleurs ce que vous pourriez avoir expliqué au juge. En réalité, le critère central, c'est véritablement l'intention, vouloir échapper à ses responsabilités. Et attention au cas grave, si l'accident cause des blessures importantes, le délit de fuite, il devient une circonstance aggravante. Le code pénal le dit, on peut alors monter jusqu'à 5 ans de prison, voire 7 ans en cas de cumul avec d'autres infractions.
Ouais.
Et il y a par contre une limite importante, ça c'est la Cour de cassation qui le dit. Si le conducteur utilise volontairement son véhicule comme une arme, ce n'est plus un accident, donc il n'y a pas de délit de fuite.
D'accord.
Ce sont des violences volontaires aggravées, donc c'est encore plus grave du point de vue de l'infraction.
Alors, maître, une petite question.
Oui.
Enzo, voilà, je vais me faire l'avocat du diable, c'est le cas de le dire. Si je suis à l'origine de l'accident et bon, voilà une on froisse une aile de voiture et que je m'en rends pas compte, que je parte, quoi. Je continue mon chemin sans même me rendre compte de l'impact qu'il y a eu, aussi petit soit-il.
Alors, là, c'est un peu différent. Dans le code pénal, on a ce qu'on appelle l'élément matériel, c'est-à-dire l'infraction en elle-même, et l'élément intentionnel, l'élément moral, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu l'intention de commettre cette infraction ?
D'accord.
Je ne pense pas, mais encore une fois, chaque semaine, je le dis, c'est toujours la même chose. C'est l'appréciation in concreto, c'est le cas par cas. C'est-à-dire que ce que les gens n'imaginent pas, c'est qu'ils pensent qu'il y a une règle et cette règle, elle est applicable, point. C'est que chaque situation est différente et Une même situation avec des faits très légèrement similaires peut amener ou non à une poursuite ou à une condamnation. Et c'est exactement le cas que tu es en train de me donner. Tu n'as pas imaginé une seule seconde te retrouver dans cette situation-là. Mm-hmm. Tu ne peux pas, on ne peut pas venir te reprocher le délit de fuite. Maintenant, effectivement, c'est à toi de venir dire que non, tu n'avais aucune intention et tu ne t'en es pas rendu compte. Éventuellement, peut-être tu t'en es rendu compte a posteriori. Mm-hmm. Donc oui, on va prendre en considération l'élément intentionnel. Mm-hmm. En matière pénale, c'est l'élément intentionnel qui va évidemment faire chavirer la décision. Ouais. En matière civile, c'est différent. Tu as eu l'intention ou non, c'est pas le problème. Mmh. En matière civile, il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile, article 1240. C'est tout fait quelconque de... Genre, je ne l'ai pas en entier l'article, mais tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Je crois que c'est ça. Ce qui veut dire que tu l'aies voulu ou non, tu as causé un dommage, point barre, tu dois le réparer. Mmh. En matière pénale, on va un peu plus loin, on va chercher l'élément intentionnel.
Mmh. D'accord.
Voilà. Okay. Et je ne suis pas pénaliste quand je te dis ça. Okay, c'est le droit pénal très basique.
Ouais, okay. On a fait le tour ?
On a fait le tour.
Bon, voilà pour les risques d'un délit de fuite. Donc autant s'arrêter, évidemment. Et puis,
bien sûr.
Assumer un peu son geste, s'il est malencontreux. Hein.
Concrètement, en cas d'accident, je veux dire, vous vous arrêtez immédiatement, vous échangez vos coordonnées, vous remplissez un constat si possible, et puis en cas de blessé, vous alertez les secours. Même un simple accrochage, et on sait... Je vais parler d'une situation qui concerne, je crois, 800 000 ou 1 million d'automobilistes en France. Mmh. C'est le fameux cas où vous n'êtes pas assuré. Je veux dire, il vaut mieux avoir à trouver une solution à l'amiable ou à réparer un dommage qui est causé, qui n'est qu'un dommage matériel sur une voiture, que de se mettre à, parce qu'on panique, justement parce qu'on n'est pas assuré, à aggraver son cas. Mmh. Ça peut devenir particulièrement dangereux du point de vue pénal pour une personne qui se trouverait dans cette situation.
Merci beaucoup Enzo.
Merci à toi François.
La semaine prochaine on parlera du délai de rétractation.
Tout à fait.
À la semaine prochaine.
Merci François.